Voilà ce que l'Éternel a fait. J'ai livré le bien-aimé de mon âme. C'était pas facile pour l'Éternel. La vengeance n'est pas son œuvre accoutumée. Ce n'est pas ce que l'Éternel veut faire. Ce n'est jamais ce que Dieu veut faire. Mais j'ai livré le bien-aimé de mon âme. Voilà l'Éternel. Et alors, un peu plus loin, chapitre 24, verset 7. Et je leur donnerai un cœur pour me connaître, car moi je suis l'Éternel, et ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu, car ils retourneront à moi de tout leur cœur. Voilà ce que l'Éternel va vouloir faire. Autrement dit, il va le châtier peut-être avec mesure, mais le but c'est quoi? C'est leur donner un cœur pour qu'ils le connaissent, pour qu'ils reviennent à lui de tout leur cœur. Donc c'est une affaire de cœur. Et Jérémie là-dedans. Jérémie, d'ailleurs, c'était très difficile, et on l'a souligné, c'est très difficile, quand on lit un livre d'un prophète, de faire la part entre le moment où c'est les prophètes qui parlent tout seul ou c'est l'Éternel qui parle, puisque lui rapporte les paroles de l'Éternel. Jérémie dit « Ainsi dit l'Éternel », et alors l'Éternel parle, puis alors de temps en temps, c'est Jérémie qui va parler, mais les paroles s'entrecroisent. Mais Jérémie et le cœur de Jérémie, il est dans le même état. Jérémie et son cœur qui est répandu. Et il suffit de se souvenir et de penser à quelques versets du livre des Lamentations, où il pleure sur Jérusalem, où il raconte toute cette douleur en voyant son peuple, le peuple de l'Éternel, où il s'associe à ce peuple. Voilà où est le cœur de Jérémie. Je rappelle ceci en disant que c'est une affaire de cœur. La deuxième chose, c'est que Jérémie parle à ce peuple. Et cette parole qu'il devait annoncer est une des paroles terribles. Et ils pouvaient se demander, mais comment je vais parler? Eh bien, souvenons-nous encore d'une chose, Matthieu, ce que dit le Seigneur dans l'Évangile, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Comment Jérémie pouvait parler? Ce n'était que parce que cette parole pouvait venir de son cœur. Il ne pouvait pas dire à son peuple autre chose. Et c'est lorsque la parole vient du cœur qu'à ce moment-là, elle peut avoir un écho dans l'autre cœur. Alors, bien sûr, vous me direz, mais il a bien parlé, mais regardez. Y a-t-il eu un écho pour Jérémie? Du peuple? Non. Non, le peuple est allé jusqu'au bout. Le peuple, c'était pour montrer quel état était le peuple. Il est allé jusqu'au bout, dans son reniement, dans son abandon. Et mon peuple l'aime ainsi, dit l'Éternel. Quelle parole aussi douloureuse. Mon peuple l'aime ainsi. Il a fallu qu'il voie tout cela, et pourtant, Jérémie parlait de son cœur. Et c'est ainsi que le Seigneur veut que nous parlions. Jérémie 30, verset 21, lisons aussi un verset central sur ce sujet. Verset 21, « Qui est celui qui engage son cœur pour venir à moi, dit l'Éternel ?» Il n'y a pas d'autre motif. Qui est celui qui engage son cœur pour venir à moi? Vous voyez que cette histoire de Jérémie, c'est une affaire de cœur. D'un côté, le cœur du peuple, le cœur opposé, le cœur méchant, le cœur qui a abandonné. D'autre côté, la sollicitude de l'Éternel, la sollicitude de Jérémie. Parler de l'abondance de son cœur, avoir un cœur engagé. Il n'y a pas de service qui tienne si le cœur n'est pas engagé. Je vais citer la parole d'un conducteur qui disait « L'amour de Jésus est le seul motif d'un service ». Je n'en connais pas d'autre. C'est-à-dire, l'amour pour le Seigneur est le seul motif pour accomplir un service. Je ne connais pas d'autre motif. Voilà ce que disait un conducteur. C'est le point central, une affaire de cœur. Et c'est bien pour cela que l'endurcissement du cœur est la chose la plus solennelle. Et je dirais, c'est peut-être, si on posait la question de quel est le plus grand danger que nous courons aujourd'hui, c'est l'endurcissement du cœur. Je ne crois pas qu'il y ait de danger plus grand que celui-là, l'endurcissement du cœur. Parce que c'est là, c'est le début où on abandonne. C'est tout devient froid, tout devient tiède. Ce sont des formes après. On abandonne petit à petit, une chose après l'autre. Voilà l'endurcissement du cœur. Et voilà pourquoi on est encore au centre d'une affaire de cœur. Mais voilà, Jérémie a persévéré et il a été fidèle. Il disait du peuple qu'il n'était pas vaillant pour la fidélité. Nous l'avons lu au chapitre 9. Eh bien, lui ne s'est pas lassé. Pendant les 40 ans ou plus de son service, 40 ou 50 ans, à 10 ans, je ne sais pas exactement, mais un très long service. Et comment est-ce possible d'être resté si longtemps avec une telle opposition et pouvoir ainsi persévérer fidèle? La seule réponse, ce n'est seulement possible que lorsqu'on a compris ce que l'on vient de dire juste avant, c'est à savoir le prix que l'Éternel avait pour Jérémie. Pour un serviteur, c'est le prix que le Seigneur a pour ce serviteur. Ce n'est pas le service qui doit avoir un prix. Ce n'est jamais le service. C'est le Seigneur d'abord, et le service est accompli pour le Seigneur. Le Seigneur nous fait l'honneur de l'avoir avec lui pour accomplir ce service. Il nous fait l'honneur d'être son collaborateur. Mais c'est d'abord avoir le Seigneur, nos cœurs engagés pour lui. C'est la seule chose qui a pu soutenir Jérémie jusqu'à la fin. Il ne pouvait pas autrement. Et il ne s'est jamais lassé. Et il a été fidèle jusqu'à la mort. Jérémie, après, a été parti en exil. Il a vu partir tout le peuple lorsqu'au chapitre 39, Jérusalem a été prise par Nebuchadnezzar. Et après, selon sa prophétie, le peuple a été emmené là-bas à Babylone. Il a vu partir ses amis. Qui l'a vu partir? Il a vu partir Daniel. Daniel était parti. Mais il a vu partir Mardochée. On retrouve le passage dans le livre d'Esther. Il a vu partir Ézéchiel. Toutes ces personnes étaient là et elles sont parties. Elles avaient entendu les paroles de Jérémie. Ils avaient entendu la prophétie de Jérémie. Mais il les a vus partir. Mais ils sont partis en ayant retenu ce que Jérémie avait dit. Il a vu partir ainsi ses amis qui sont partis dans le pays éloigné, tel que l'Éternel avait dit. Alors est-ce que lui devait les accompagner? Toujours est-il qu'il est resté avec le peuple pauvre, le pauvre, ceux qui après sont exilés après en Égypte. Et il n'y a jamais un reproche qui est fait à Jérémie de la part de l'Éternel. Non, le cœur, on voit à quel point le cœur de Jérémie était lié étroitement à celui de son Dieu. Et la parole ne nous dit pas comment Jérémie a péri, donc je n'en parlerai pas. Toujours pareil, lorsqu'il y a des serviteurs, on est toujours étonné que la parole, pour certains, c'était pas le cas d'Étienne. Mais pour certains serviteurs, Pierre, on n'en a jamais parlé non plus. On ne connaît pas la manière dont ils sont partis. Simplement parce qu'il faut laisser la place à celui qui est au-dessus de tout, c'est-à-dire le Seigneur lui-même. La mort sur la croix, il est là notre modèle, notre seul et notre grand modèle. Ainsi, le départ d'un serviteur, et il y en a eu des martyrs, et il y en a eu, et Jérémie en a été un, mais fidèle jusqu'à la mort. Comme ces fidèles de l'église de Smyrne. Il y a ceux d'Éphèse qui avaient abandonné le premier amour, à Smyrne, ils ont été fidèles jusqu'à la mort. Et enfin, l'attachement à la parole, c'est le point, le sixième point, et je voudrais quand même dire un mot sur cela. Nous avons lu au verset 15, vous permettez qu'on lise encore deux, trois versets. Je reviendrai sur le chapitre 15, nous avons lu le premier verset, et puis alors, juste après on a le verset 16. « Tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées. Tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. » Ensuite, on lit au chapitre 20. Nous avons déjà lu au chapitre 20, mais je veux lire encore une expression, mais qui est très significative. Donc, verset 7, on avait vu que Jérémie était un objet de dérision, on se moquait de lui. « La parole de l'Éternel m'a été à opprobre et à moquerie. » Donc, à cause de la parole de l'Éternel à laquelle il était attaché, qu'il répandait, eh bien, il portait de l'opprobre. Et alors, on continue, et j'ai dit, verset 9, « Je ne ferai plus mention de lui. » Je ne parlerai plus en son nom. Voilà le petit moment de découragement de Jérémie. Il a dit, mais alors je vais m'arrêter. Cette parole met en opprobre. Un moment de découragement. Mais alors il s'arrête. Mais elle a été dans mon cœur comme un feu brûlant. Cette parole était dans son cœur comme un feu brûlant. Il a un moment de doute. Mais la parole avec sa puissance, eh bien, elle est dans son cœur comme un feu brûlant. Je lirai ce verset, chapitre 23, encore ce dernier verset, verset 29 du chapitre 23. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc ?» Ainsi Jérémie est attaché à la parole de l'Éternel. Attaché, mais au point que, même si dans un moment de découragement il faisait des tournées, cette parole le brûle, elle est comme un feu qui le brûle intérieurement. Et Jérémie est attaché à cette parole. Voilà, chers amis, il faut conclure. Pourtant, j'aurais voulu dire encore un mot sur cette parole, je le dirai quand même. C'est que nous nous souvenons de ce qu'avait fait Baruch. Baruch, il avait recopié cette parole, et puis il l'a copiée une deuxième fois. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle a été lue devant le roi, c'était Jéhoiakim à cette époque, Jéhoiakim l'a pris, l'a déchiré avec son couteau, l'a jeté dans le brasier. Cette parole, je pense que nous avons tous lu le feuillet de la bonne semence ce matin. Le feuillet de la bonne semence ce matin s'appelait Parole invincible. Parole invincible. Cette parole que l'homme voulait détruire, que le roi Jéhoiakim a brûlée, eh bien elle a été recopiée dans les mois qui ont suivi, et des paroles ont été encore ajoutées à celle-ci. Aujourd'hui et partout, on veut encore détruire cette parole, et nous l'avons rappelée. Eh bien, elle reste, et elle demeure, et Dieu demeure, et sa parole demeurera éternellement. Voilà ce qu'il nous faut nous souvenir, se rappeler de cette parole invincible, et que tous les ennemis, tous les efforts de l'homme pour la discréditer, l'anéantir, sont vains. Alors, un mot de conclusion. L'époque de Jérémie, c'était une histoire, la fin d'un moment de l'histoire du peuple, un moment dramatique. Dieu avait tout essayé pour son peuple. Un peuple qu'il aimait, n'oublions pas. Un peuple qu'il voulait pour lui, qu'il lui appartienne en propre. Il avait tout fait pour ce peuple. Il l'avait aimé, il l'avait conduit, il lui avait donné tout ce qu'il fallait. Eh bien, on arrive à la fin. Ce peuple m'a abandonné. Ils m'ont quitté. Aujourd'hui, Jean l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans un moment de l'histoire, de notre histoire. Alors il y a l'histoire, on peut superposer toutes les histoires. Il y a l'histoire de le monde dans lequel on vit. Et effectivement, le monde occidental qui est abandonné et qui, je dirais, est ignorant, méprise, néglige la parole de Dieu. On ne veut plus en entendre parler. La parole a été prononcée une fois, deux fois, et l'on n'y prend pas garde. Et c'est pour cela que c'est solennel. Il y a aussi l'histoire de notre témoignage, de notre vie ensemble, de notre vie d'église responsable, car nous avons à vivre cette vie ensemble, et je crois que ceci a été rappelé à la première réunion à Gerbari. Mais voilà aussi, c'est une phase importante de notre vie, et nous attendons tous, aujourd'hui, le moment où le Seigneur viendra chercher les siens, son épouse. Donc nous savons, il dit « je viens bientôt », donc on est bien à ces temps de la fin aussi. Donc dans ces temps, eh bien, le Seigneur, il veut des témoins fidèles, des serviteurs fidèles. Voilà le critère, des serviteurs fidèles, engagés, un cœur engagé et fidèle. Et des serviteurs qui soient engagés, qui soient droits de cœur. Il veut un attachement à sa parole, il veut également un esprit d'humiliation. Également connaissant notre maître, le connaissant mieux lui. Et c'est parce que nous l'aimons mieux, parce que nous le connaissons mieux sa grâce, qu'alors eh bien, nous voudrons nous tenir séparés du mal. C'est parce que nous aimerons mieux notre Seigneur que nous voudrons, comme lui, le connaître et refuser telle ou telle chose qui n'est pas bonne, qui est mauvaise. Pensons à ça, c'est dans la mesure où mon cœur est davantage engagé, je l'aime, que je veux lui plaire et l'honorer, qu'alors je me tiens en dehors. Voilà des choses qu'il nous faut garder. Et alors, si on est engagé dans un chemin, et c'est ma dernière parole, dans un chemin étroit. C'est vrai, c'est un chemin étroit. Qui est-ce qui va dire que le chemin n'est pas étroit? Oui, mais parce que c'est par définition, c'est le chemin que le Seigneur a tracé. Chapitre 6 de Jérémie, verset 16, il est parlé des sentiers anciens. Qu'est-ce que c'est que les sentiers anciens? Les sentiers anciens, c'est le sentier que le Seigneur a tracé un jour. Et c'est celui dans lequel il nous invite à marcher. Voilà où nous invite le Seigneur à marcher, dans ces sentiers anciens, dans ce droit chemin, dans ce chemin. Et alors, comment faire pour marcher après le Seigneur? Eh bien, il faut prendre son joug. Voilà la meilleure manière de suivre le Seigneur, ce joug. Et alors, on peut avancer dans ce chemin. Et qu'est-ce qu'il veut, le Seigneur, dans ce chemin? C'est la parole qui nous dit, Josué, ne t'écarte ni à droite, ni à gauche. Dans le chemin étroit, ne nous écartons pas à droite, un esprit légal, ne nous écartons pas à gauche. Être permissif. Veillons, restons dans ce chemin étroit. C'est le chemin que le Seigneur veut nous voir suivre. Eh bien, quelle est la récompense lorsque nous suivons ce chemin? Voyons bien la fin de Matthieu 11. Prenez mon joug sur vous, il est aisé et vous trouverez le repos de vos âmes. Lisons Jérémie 6, verset 16. Suivez ces sentiers anciens. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Alors, chers amis, le voilà. Voilà le chemin que nous pouvons suivre. Donc, le service que nous avons chacun, dans le service dans lequel nous sommes engagés, c'est de connaître ce chemin. Et alors, nous goûterons quoi? Le repos de nos âmes. Alors, on comprend combien c'est douce chose pour tout enfant de Dieu qui se repose, de l'aimer et de le servir.